Bonjour. Merci de nous ouvrir votre porte ce matin. Nous vous invitons à entrer dans ce culte par la prière. Il va venir. Il vient. Il est là. Quand on attend quelqu'un, c'est fou ce que l'attente peut transformer un être. À croire que parfois elle le transfigure. C'est que quelqu'un qui vient, quelqu'un dont on désire la venue, quand il vient, les choses et les gens sont différents. Mais il arrive que parfois, quand l'autre vient, c'est la surprise. Tout est transformé. La vie change. Rien n'est plus comme avant. L'étranger est à notre table, il devient fils, elle devient fille, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur. L'étranger devient frère, tout est possible alors, quelle que soit la couleur de sa peau, celle de ses choix politiques ou de ses opinions. Quand on accueille, ainsi celui qui doit venir, quand on se laisse surprendre par celui qui vient, sûr, Dieu est là, il est à notre porte, il se cache derrière le visage de l'autre. Le voici, il vient. Comme il me fait plaisir de m'adresser à toi, aujourd'hui, Seigneur. Tu es si facile d'accès, si disponible, qu'il m'est impossible de te parler avec d'autres mots que ceux qu'on utilise pour s'entretenir avec un ami, un confident. Il est ardu de comprendre que tu portes à chacun de nous la même attention désintéressée, que chaque être sur cette terre peut bénéficier de ta protection, de ton amour. Mais ma foi, Seigneur, me fait voir au-delà de ce mystère, et j'ai confiance en toi. La route qui mène à toi est semée d'embûches, et parfois il me semble cela infranchissable. C'est dans ces moments que je sens une force puissante monter en moi. Elle me donne un regain d'énergie, un goût de vivre, qui me surprennent parfois. Cela me prouve qu'il est profitable de me confier à toi. Je ne sais comment tu t'y prends pour réconforter avec autant d'efficacité, mais ma foi, Seigneur, me fait voir au-delà de ce mystère et j'ai confiance en toi. Je pense que c'est aussi ma foi qui m'a permis de te parler ainsi, d'ami à ami. Merci Seigneur. Amen. Il était une fois qu'avait perdu le Nord, pour cause d'amour mort et de rêves déçus. Il était une fois qu'était toute raplapla, à force de cœur lourd et d'engelure à l'âme. Faut dire qu'il faisait froid sur les routes d'ici-bas. Faut dire qu'il faisait triste dans ce monde en bataille. Il était une fois qu'avait une jambe de bois, qu'avançait et clopait dans ce monde de fous, tenant debout à peine, tenant debout quand même. Nul ne sait ni comment, ni pourquoi, hormis Dieu, qui sait tout. Nous allons maintenant partager la lecture de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5, les versets 20 à 26.
Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère « crétin », il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit « renégat », il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou.
Il y a des mots qui font du bien, légers comme des papillons parfumés, comme des fleurs. Ils nous mettent le cœur en fête, ils réjouissent nos relations humaines. Il y a des mots qui font vivre. Et il y a des mots qui font mal, lourds comme des obus, efficaces comme des torpilles. Ils explosent et assassinent nos relations humaines. Ils nous mettent le cœur en deuil. Il y a des mots qui tuent. À l'étalage de notre magasin intérieur, nous avons le choix des mots. Nous avons le choix des armes. Il nous est même possible d'usiner nos mots en fonction de la demande et des situations. Nous pouvons bricoler un langage amical ou au contraire fourbir des phrases meurtrières. Tout dépend de ce que nous sommes en train de vivre avec celui ou celle qui nous fait face. Des écarts de langage, nous en faisons tous. Nous sommes soumis par la vie et par les autres à de telles pressions que nos mots font parfois office de soupape de sécurité. Un mouvement de colère, un geste de dépit, les barrières sautent. Nos mots comme des fauves bondissent, rugissent, mordent. Le mal est fait. Trop tard pour le retenir. Notre interlocuteur s'éloigne blessé. Ou alors il contre-attaque pour nous blesser nous aussi. C'est l'engrenage meurtrier de la violence. Nous avons mal et nous faisons mal. Nous souffrons et nous infligeons des souffrances. Nous comprenons ce qui se passe, mais nous ne pouvons pas l'empêcher. La spirale est lancée, nos relations humaines sont happées vers l'abîme. Qui de nous ne traîne comme un boulet au cœur une relation humaine mal vécue, desservie par la violence des mots ? Des mots ont été échangés, qu'il n'est plus possible de rattraper. Ils sont désormais gravés sur la pierre tombale qu'est devenue notre cœur. Ainsi est morte une relation d'amour, d'amitié. Le poids d'une relation morte est lourd à porter. Le désordre intérieur qui en résulte est difficile à assumer. Ce matin, l'Évangile nous offre et nous supplie d'arrêter l'engrenage. Nos mouvements de colère, nos écarts de langage nous entraînent sur la pente du meurtre et vers notre propre condamnation. Il faut quitter cette pente avant la chute irrémédiable. Il faut désarmer notre langage. Que se passe-t-il quand nous traitons quelqu'un d'imbécile, de fou ou de n'importe quelle autre injure puisée dans notre colère? Que se passe-t-il quand nous nous emportons contre lui? Nous lui retirons le droit d'exister en notre présence. Nous le punissons de ne pas nous ressembler suffisamment. Nous pourrons dire, bien sûr, qu'il dépassait les bornes et que notre colère est parfaitement justifiée. Nous pourrons prétendre que nous nous sommes fâchés pour lui rendre service. Mais on n'aide pas quelqu'un à vivre en le tuant. Même si nous trouvons 1000 arguments pour excuser notre attitude à nos propres yeux, il n'en reste pas moins que nous sommes coupables d'atteinte à la vie de l'autre. Mais moi, je vous dis, par cette première antithèse du sermon sur la montagne de l'évangile de Matthieu, Jésus, de sa propre autorité, nous replace devant la volonté de Dieu, que nous affadissons et dénaturons pour sauvegarder notre propre volonté avec nos élans et nos désirs humains. La volonté de Dieu, Jésus a dû la dégager du fatras des traditions humaines, des couches sédimentaires qui l'étouffaient. Il a dû déblayer parmi les us et coutumes de ses contemporains pour faire réapparaître la volonté de Dieu dans tout son éclat, dans toute sa force. Jésus a accompli ce travail en accordant sa propre volonté à celle de Dieu, en servant Dieu et ses frères plutôt que de se servir lui-même. Son obéissance ne s'est pas limitée à l'observance de principes formels. Elle a revêtu toute sa personne. Elle est devenue sa chair et son sang. Jésus a vécu la volonté de Dieu en s'approchant de ses contemporains avec des paroles et des gestes d'amour. Il a redressé des corps et des vies tordues. Il a repris dans la communion de Dieu des exclus et des pécheurs notoires qui soulevaient la colère bien pensante des gens pieux. Il est allé chercher et sauver ce qui était perdu. Il a ainsi introduit sur cette terre, au milieu des hommes, un espace et un temps nouveau. L'espace-temps du royaume de Dieu. Dans cet espace-temps, apporté par Jésus, les hommes ont pu apprendre qu'ils étaient aimés et appelés à la vie, et que la colère de Dieu ne retomberait pas sur eux. La colère est tombée sur le serviteur obéissant. Jésus, l'instigateur du royaume parmi les hommes, est mort en croix, victime de la colère de ses contemporains. Il est mort sans colère, sans souci des autres, sans souci pour leur désordre intérieur, l'emportait de loin sur le souci de sa propre personne. En aimant les siens jusqu'à la mort, en donnant ainsi sa vie, Jésus a cassé le cercle de la violence qui se nourrit de violence. Il a ouvert le chemin du refus de la violence et aussi de la violence verbale en ne répondant pas aux injures par d'autres injures. Il a enrayé et saboté l'engrenage meurtrier au lieu de le huiler. Ça lui a coûté la vie. Et sa mort nous rend la vie. Jésus nous a en effet ouvert la possibilité de pratiquer une nouvelle justice qui manifeste la présence du règne de Dieu parmi nous et entre nous. Dans cette pratique du royaume, l'autre devient le critère de notre action. Notre justice l'emporte sur celle des scribes et des pharisiens dans la mesure où nous travaillons à la réconciliation des hommes entre eux et cessons de fignoler la déroute des rapports humains. Notre justice est celle du royaume de Dieu dans la mesure où nous agissons et parlons pour le bien de l'humain plutôt que pour servir notre confort et nos privilèges particuliers. Réconciliation. Le mot fait rêver. La réalité à vue humaine n'est pas à notre portée. Est-il encore possible de se réconcilier quand tout est cassé et dévasté entre nous? Est-il possible de stopper l'hémorragie quand nos relations saignent? Lors du rassemblement cultuel, nous venons célébrer notre réconciliation avec Dieu. La volonté de Dieu est que priorité soit donnée à la réparation de nos relations humaines. Inutile de nous présenter devant Dieu si nous ne voulons plus nous présenter devant celui qui nous en veut et à qui nous en voulons. Nous célébrons Dieu en vérité lorsque nous vivons son amour entre nous. Le culte est le moment où nous nous présentons devant Dieu avec notre vie blessée pour être envoyés les uns vers les autres afin de remettre en marche ce qui est momentanément grippé. Dieu nous appelle à la vie, nous offre d'entrer dans sa vie et nous arrache à notre désordre personnel ou communautaire. Dieu ne veut pas que nous nous résignions à nos défaites. Me voici, avec le poids de ma relation morte, avec ma peur, en train de frapper à la porte de l'autre pour lui demander pardon et pour lui offrir de se décharger de sa colère, de s'en défaire. Je ne sais pas comment je serai reçu. La réaction de l'autre à mon égard ne m'appartient pas. Je vais lui offrir un espace-temps où il pourra vivre, revivre en ma présence. Je cesserai de l'agresser, de le harceler, de le démolir avec mes mots meurtriers. Je lui demanderai de m'accorder à moi aussi un espace-temps où je pourrai me tenir en sa présence. Peut-être pourrons-nous, ensemble, nous présenter devant Dieu pour célébrer son pardon et lui demander de nous affermir dans notre relation ressuscitée mais tellement fragile et de nous aider à ne pas la piétiner à nouveau par la lourdeur de nos mots. Ce morceau d'évangile nous interpelle encore à d'autres niveaux. Il interpelle nos églises séparées qui se présentent à la table du Seigneur en ordre dispersé et qui communient chacune chez soi, chacune à sa propre table. Nous avons tendance à relativiser nos divisions ecclésiales comme nous nous habituons à nos difficultés relationnelles. L'Évangile nous rappelle ce matin qu'il n'y a pas de communion véritable avec Dieu sans réconciliation préalable entre frères. Le Seigneur attend à sa table, à la sienne et pas aux nôtres. Il attend des frères en Christ réconciliés, désireux de manifester ensemble l'espace-temps du royaume de Dieu où les différences ecclésiales sont accueillies et acceptées et non nivelées et supprimé. Comme le dit notre texte, nous sommes en chemin et tout est ouvert et possible. Même si aux différents niveaux que nous avons mentionnés, notre passé est encombré de choses déplaisantes, il est encore possible de laisser advenir un espace-temps différent. Dans l'avenir que Dieu nous ouvre, dès à présent, nous sommes appelés à entrer ensemble en nous appuyant les uns sur les autres pour vaincre les blessures que nous nous sommes mutuellement infligées. Nous sommes appelés à nous remettre en marche pendant qu'il est encore temps, à avancer dans la vie, vers la vie. en laissant la mort derrière nous. Amen. Je vous invite à la prière, prière d'intercession, comme on dit, tenir la route. Vous connaissez ce mot ? Un mot, bien plus qu'un mot, une réalité décisive, impérative. Il faut tenir la route, c'est la loi. C'est la loi des entreprises. C'est la loi de toute société qui veut marcher, qui veut réussir, qui veut s'en sortir. Tenir la route, c'est... Après s'être fixé un objectif, s'y tenir, coûte que coûte, envers et contre tout, contre vents et marées, en serrant les dents et les poings. Autour de nous, regarde-les, ceux qui tiennent la route. Ce n'est pas hasard, ce n'est pas un coup de peau. Il ne s'agit pas d'une question de chance, ni de température, ni de climat. Il s'agit de cet effort quotidien, de cette volonté qui met debout, debout, quel que soit le temps. Debout, quels que soient les événements, regarde-les ces gens de tous les jours. Regarde-toi peut-être. Ces professeurs, ces institutrices, ces mécanos, ces travailleurs de force, ces gens du commerce et de la route, du théâtre, ils sont là. Ils doivent être là, debout. Debout devant leurs élèves, debout devant leurs machines, debout devant leurs clients, debout, toujours debout en scène devant le public. Debout, alors que peut-être les gosses sont malades. Debout, alors que la terre encore toute fraîche recouvre le corps d'un être aimé. Debout, alors que tout simplement, on n'en peut plus. Le cœur n'y est pas, la gorge est serrée. Mais il faut y aller quand même. Et toi, Seigneur, tu viens et tu me dis, allons, tiens le coup, malgré tout. Je te l'ai dit. Je te le dis encore par mes prophètes, si les jeunes gens se fatiguent, si les athlètes s'effondrent, ceux qui mettent leur espérance en moi, ceux-là tiendront la route, car je leur tiens la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de reprendre chacun sa route, un rappel. On a essayé par la violence, il a continué avec l'amour. On a essayé par les crachats, il a continué dans le silence. On a essayé par le mensonge, il a continué dans la transparence et la vérité. On a essayé le découragement et la peur, il a continué dans la confiance en la volonté du Père. On a essayé par l'humiliation et le ridicule, il a continué dans la dignité. On a essayé par les clous, il a continué avec le pardon. On a essayé par la solitude et l'angoisse. Il a continué en se remettant entre les mains du Père. Alors, on a essayé par la mort, car la mort, c'est connu. C'est la solution finale. Personne ne peut aller au-delà, car la mort est l'ultime puissance, l'obstacle dernier sur lequel chacun trébuche, même le plus grand, même le Fils, fut-il le bien-aimé de Dieu. Mais il a continué. Animé par l'amour du Père, il est entré dans la mort comme on entre dans un obstacle qui verrouille le passage. Il a été brisé. Son corps, son âme, il est mort sur une croix. Mais il a continué et il est passé. Le Père l'a remis debout, il est vivant. Depuis ce jour-là, la violence et la haine n'ont plus le dernier mot. C'est fait à jamais. La mort est définitivement entamée. Et l'entaille ira s'agrandissant, car désormais, la mort a perdu son pouvoir. Pour l'éternité, la pierre a été roulée, un passage a été ouvert. C'est Pâques, pour toujours. Bon dimanche à vous, bonne vie à vous.